Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'exemple, ou plutôt du contre-exemple du roi Saül, de ses péchés, de son manque de véritable regret, de pénitence et de sa chute inexorable jusqu'à sa mort sur les montagnes de Gelboé face aux Philistins, mort qui est en fait un suicide. On a vu donc la déchéance d'un roi qui a été choisi par Dieu directement à travers le prophète Samuel et cette déchéance qui est causée par des désobéissances graves aux ordres de Dieu par l'intermédiaire du prophète. Mais derrière ces désobéissances, c'était surtout le manque de véritable pénitence et d'acceptation des peines qui va conduire malheureusement le roi Saül à la nécromancie, comme on l'a vu, et pour finir au suicide. À Saül succède le roi David. En fait, David, comme nous l'avons vu la semaine dernière, était déjà roi au moment de la mort de Saül, puisque la royauté avait été ôtée par l'intermédiaire du prophète Samuel, et Samuel avait choisi par inspiration divine ce jeune berger de Bethléem, David, pour être roi. Il l'avait loin d'huile, mais David avait eu la prudence et surtout la grandeur d'âme de ne pas s'emparer du pouvoir malgré la légitimité éventuelle, mais il voulait éviter une guerre civile, et en plus il respectait le fait que à la base effectivement Dieu avait choisi Saül comme roi. Donc David, tout au cours de cette période, n'a cessé de fuir devant le roi Saül à partir du moment où il l'a persécuté, et pourtant à sa mort, comme nous l'avons vu, il ne se réjouit pas. David donc devient roi effectivement autour de l'an 1000 avant notre Seigneur Jésus-Christ, 1010. Alors vous savez que c'est toujours difficile d'établir une chronologie absolue avec des dates tout à fait précises, mais on a un bon ordre d'idées. Le roi David va être la gouvernance du roi David va être marquée toujours par cette guerre contre les Philistins, cette guerre contre les peuples alentour, et par l'affermissement du royaume d'Israël, donc qui va bien sûr être tout à fait florissant sous le successeur de David, c'est-à-dire le roi Salomon. Donc le roi David, ce règne va être marqué par plusieurs éléments. Il est difficile, on va pas tout voir de façon chronologique, et il est d'un plus grand intérêt pour nous d'en tirer les leçons morales et spirituelles. Et donc, quelles sont les leçons morales et spirituelles que nous pouvons tirer de la vie du prophète David? C'est d'abord l'institution du culte de Dieu, son goût pour le culte de Dieu, la vertu de religion exprimée par ce culte de Dieu. En effet, David va installer sa capitale à Jérusalem, hein, donc c'est sous son règne que la capitale va être installée à Jérusalem. Avant, c'était à Hébron. Et à Jérusalem, il va ramener l'Arche d'Alliance. Je vous rappelle que l'Arche d'Alliance était le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. C'est Dieu lui-même qui avait dit à Moïse de fabriquer cette Arche d'Alliance comme symbole de la présence de Dieu, et elle a montré cette présence à travers de très nombreux miracles. Donc l'Arche d'Alliance va être transférée à Jérusalem et Jérusalem va devenir par conséquent le centre de culte, du culte du vrai Dieu, puisque le culte du vrai Dieu à cette époque, c'est à travers le peuple juif choisi par Dieu, on le sait pour un but bien précis, la préparation de la venue du Messie. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Dieu dit à David qu'il affermera son règne et que ce règne sera éternel. Ce règne sera éternel, non pas parce que le règne sur la terre du peuple juif serait éternel, contrairement aux visions sionistes, bien sûr, de la chose. Mais ce règne est éternel parce que David est l'ancêtre du roi éternel, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Et d'ailleurs, la Sainte Écriture est très claire là-dessus, même l'Ancien Testament est très clair sur cette donnée, que le roi éternel, c'est celui qui doit venir, et celui qui doit venir, c'est le Messie, et ce Messie, c'est bel et bien notre Seigneur Jésus-Christ. Pour revenir au culte de Dieu, David va beaucoup faire pour le culte de Dieu. Il va installer sur le mont Sion à Jérusalem. Alors on parle de mont, hein, vous savez, c'est plutôt des collines qu'autre chose. Hein. Soyons honnêtes dans ces pays. Hein, c'est un peu comme la Bretagne. Avec un sommet à 390 mètres, bon, voilà. Donc, le Mont Sion, une colline, un lieu élevé qui est tout à fait adapté pour le culte de Dieu, bien sûr. Le roi va installer son palais à côté. Par contre, Dieu défend à David de construire un temple en dur. Vous le savez, donc, depuis la fabrication de l'Arche d'Alliance en bois d'acacia doré, cette Arche d'Alliance a été promenée, si j'ose dire, et guidée le peuple, d'ailleurs, dans le désert. Et cette Arche d'Alliance était conservée dans un tabernacle, c'est-à-dire une grande tente divisée en deux avec le fameux voile du temple hein, qui séparait les deux parties, le saint et le saint des saints, dans lequel se trouvait l'Arche d'Alliance. Donc on conserve cette configuration avec à l'extérieur les sacrifices qui étaient offerts à Dieu. David obéit. Déjà, c'est un point qui le distingue du roi Saül, hein, qui n'avait pas voulu attendre avant d'offrir les sacrifices, comme l'avait demandé le prophète Samuel. David, il attend, mais il n'attend pas de manière passive. Il va rassembler pour son fils tous les matériaux nécessaires à la construction du temple. Donc, il va préparer ce que son fils pourra accomplir. Donc, il obéit à Dieu et en même temps, il n'est pas inactif. Il fait ce qui est en son pouvoir. C'est très intéressant comme démarche parce que c'est la démarche de toute notre vie spirituelle. Il faut obéir à Dieu, obéir à ses commandements, mais en même temps, il faut agir. Et c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons agir convenablement, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons agir vertueusement. Il y a cette coopération entre nous et Dieu. On n'a pas à attendre la grâce de Dieu, bien sûr, parce qu'elle nous est donnée pour agir. Mais il faut agir selon les ordres de Dieu. David va établir aussi, organiser tout le culte de Dieu avec les tours de garde des prêtres, etc. Et surtout, il va composer un grand nombre de cantiques, de poésies chantées devant l'Arche d'Alliance, chantées culte à Dieu, les fameux psaumes. Il y a 150 psaumes, tous n'ont pas été composés par le roi David. Il y en a précisément 73 qui lui sont attribués nommément, parce que vous savez, nous on chante les psaumes directement, on ne donne pas le titre, mais en général, au début du psaume, il y a un titre et souvent il y a l'auteur du psaume. Et nommément, il y a 73 psaumes de David, mais on peut lui en attribuer, donc en regardant la manière d'écrire, de composer, on peut lui en attribuer jusqu'à 85. Donc, plus de la moitié des psaumes ont été composés par le roi David. Ces psaumes qui sont de magnifiques prières, et d'ailleurs que l'Église a établi comme source principale de sa prière, puisque le bréviaire qui est récité par les prêtres, qui est chanté, quand cela est possible, et c'est mieux, qui est chanté, eh bien, qu'est-ce qui est l'essentiel de la prière de l'Église? Ce sont les psaumes. Et même dans la messe, ça a été beaucoup réduit au cours des siècles. Ce qui nous reste de chants pendant la messe, remarquons-le, les chants principaux, l'introïte, graduel, alléluia, qui sont certainement les chants les plus anciens, et offertoire, ce sont des psaumes, la plupart du temps, bien entendu, puisque on a accru ce patrimoine au cours des siècles de compositions liturgiques, mais à la base, ce sont des psaumes, et même des psaumes entiers, comme on le voit encore pendant le carême, à travers les différents traits, n'est-ce pas? Il nous en reste que deux, le psaume 90 et le psaume 21, qui sont chantés quasiment en entier pendant le carême, au début du carême et à la fin avec le dimanche des rameaux. Mais vous le voyez, donc la prière principale de l'Église, ça reste les psaumes. Et il serait quand même intéressant pour les chrétiens aussi de se pencher sur cette prière des psaumes. Et autrefois, c'était commun. Malheureusement, ça ne l'est plus, que les fidèles, eux aussi, récitent comme prière des parties du bréviaire, et donc récitent comme prière des psaumes. Donc, le premier élément que nous voyons chez le roi David, c'est cet amour du culte de Dieu. Un amour qui est pratique, qui s'exprime en choisissant un lieu particulier, bien adapté, qui s'exprime par l'obéissance à Dieu. Il fait, ou plutôt il ne fait pas, il respecte l'interdit de Dieu par rapport à la construction du temple, mais il rassemble les matériaux, il organise le culte et il compose des prières qui vont servir au culte. Donc on a d'abord cet élément chez Yahvé, l'amour du culte de Dieu. C'est très important pour nous. Souvent, je vous ai rappelé l'importance de la prière liturgique. Et pour nous autres chrétiens, cette leçon, c'est d'aimer la prière liturgique, d'aimer la messe, la participation au maximum active à la messe, chacun à sa place. C'est ça aussi que nous propose l'exemple du roi David. David, comme Saül, a été pécheur, mais il a réagi différemment. Les principaux péchés de Saül, tout le monde connaît normalement, je l'espère, l'épisode donc de Bethsabée, la femme d'Uri, que David trouvait fort belle, et donc elle l'était certainement, et par conséquent, il va prendre les moyens de se l'attribuer. Vous le savez, à l'époque, les rois pouvaient avoir de nombreuses épouses, concubines. C'était une licence permise par Dieu lui-même que notre Seigneur Jésus-Christ révoque de manière absolue et explicite dans les évangiles. Hein, donc on ne peut pas revenir là-dessus, contrairement à ce que peuvent faire certains. De même que notre Seigneur Jésus-Christ condamne explicitement et fermement le divorce dans les évangiles. là encore, hein, contrairement à ce que voudraient certains dans la ligne des protestants. Que fait David pour s'attribuer cette femme? Il ne va pas supprimer directement Uri, ce serait trop grossier. Et puis, ça manquerait d'utilité, étant donné que Uri était un soldat, qu'on avait toujours à combattre les ennemis, il va le mettre en première ligne. Comme ça, on est sûr qu'il va mourir. Ce qui se passe effectivement, le pauvre Uri meurt en première ligne en défendant le royaume d'Israël et donc son roi, sans savoir que ce méchant roi, en l'occurrence, a fait cela uniquement pour s'attribuer sa femme Bethsabée. Le prophète Nathan, à cette époque-là, bien sûr, va le lui reprocher par une parabole que nous lisions cette nuit dans l'office des matines, une parabole qui invite le roi David à réfléchir sur le fait de prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. David se scandalise et le prophète lui répond « Mais cet homme, c'est toi ». Et là, ses yeux s'ouvrent et là, il reconnaît son péché, il reconnaît sa faute. Comme nous l'avons vu, Saül a aussi reconnu ses fautes, sauf que ça n'est pas suivi de pénitence. Nathan lui indique la pénitence. L'enfant va mourir et l'enfant effectivement de Bethsabée meurt. Que fait David? Est-ce qu'il se rebelle? Est-ce qu'il continue sa vie comme ça, finalement, comme Saül, sans changer? Non. Le roi David fait pénitence. Il demande pardon. Il jeûne, nous dit la Sainte Écriture. Donc on a une attitude qui est totalement différente par rapport à l'attitude de Saül. C'est suite à ce péché qu'on lui attribue le psaume de pénitence par excellence, c'est-à-dire le psaume 50, le Miserere, et qui est évidemment, qui contient tous les accents de la pénitence, tous les éléments de la pénitence, et ces éléments de la pénitence, nous les connaissons, ce sont ceux qui vont constituer le sacrement de pénitence. La contrition, cor contritum et humiliatum, le roi David parle évidemment de corps contrit, de cœur qui est contrit et humilié. La contrition, c'est-à-dire le regret sincère des fautes, et la pénitence. Et avant cela, la confession, c'est-à-dire la reconnaissance de ses propres fautes. Donc on a les trois éléments. Reconnaissance des fautes, regret des fautes, réparation des fautes. Reconnaissance, regret, réparation. Donc si vous voulez un moyen mnémotechnique, vous avez trois R, n'est-ce pas? Reconnaissance, regret, réparation. Reconnaissance des fautes, confession. Regret des fautes, contrition. Et réparation des fautes par une véritable pénitence, par le jeûne et par la pénitence, c'est ce que fait le roi David. Notons qu'il demande que l'enfant ne meure pas quand même dans ses prières, et on voit aussi la foi du roi David, parce que Dieu pourrait revenir sur la peine. Dieu ne revient pas en l'occurrence sur cette peine et n'obtient pas. Et là encore, est-ce que le roi se rebelle? Absolument pas. Il accepte la décision divine, il accepte la volonté divine. C'est vraiment l'opposé de l'attitude du roi Saül. Donc là encore, pour nous autres, le roi David est un exemple de la véritable pénitence. Savoir reconnaître ses fautes dans la confession, savoir les regretter et savoir les réparer. Nous voyons que dans la mentalité d'aujourd'hui, il manque pratiquement tous ces éléments. Les gens s'excusent en permanence. On reconnaît mal ses propres fautes. On les regrette mal, voire pas du tout. Et enfin, la réparation est quasiment inexistante, et dans la mentalité moderniste, Dieu étant tellement miséricordieux qu'il n'y a aucune réparation qui est demandée. Sauf que la Sainte Écriture nous montre absolument tout le contraire, de A à Z, du livre de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, à tout péché et demander une pénitence. C'est anti-chrétien et même donc c'est anti-rationnel qu'il n'y ait pas de pénitence, de réparation pour le péché. Donc retenons cela, ayons aussi cette attitude de reconnaissance des péchés, de regret et de pénitence. David a fait d'autres fautes, celle-ci est particulièrement marquante et très intéressante, mais il a fait d'autres fautes, notamment le silence. Le silence face au viol de Tamar. Tamar, c'est une de ses nombreuses filles, puisqu'il avait de nombreuses épouses, et Tamar a été violée par un de ses demi-frères en réalité, et David, l'ayant su, n'a pas châtié le contrevenant. Qui a châtié le contrevenant? Eh bien, c'est un autre fils de David, à savoir Absalom. Sauf que bon, il l'a fait en dehors de l'ordre, et par conséquent, le roi David va l'exiler. C'est vrai que on ne fait pas une vengeance en dehors de la justice royale, la justice qui est établie. Le roi David a raison. Mais il aurait dû agir auparavant. Donc, c'est aussi une faute. La non-action par rapport à une faute grave d'un de ses enfants. Et donc c'est une leçon aussi pour les parents. Hein. Parfois on s'étonne des conséquences dans l'éducation, mais s'il n'y a pas de sanctions quand il y a des mauvais comportements, alors bien sûr il faut que les sanctions soient tout à fait proportionnées au comportement. Là on a un comportement absolument gravissime, évidemment de la part d'Amon, mais de façon générale, s'il n'y a pas de sanction dans l'éducation, il n'y a pas une bonne éducation. C'est inévitable, parce que on n'apprend pas en supprimant les sanctions, on n'apprend pas aux enfants que tout comportement mauvais, déviant par rapport à l'ordre voulu par Dieu, par rapport à l'ordre institué par les parents, implique une réparation de cet ordre, et donc implique une sanction. Évidemment, il ne s'agit pas d'être brutal et violent, ce n'est pas non plus selon la mentalité chrétienne, mais à un moment donné, il faut quand même sanctionner. Si on ne sanctionne pas, il ne faut pas s'étonner des conséquences. Bref, c'est une parenthèse, mais là aussi, le roi David, malheureusement, est un exemple, et un contre-exemple pour le coup. Troisième faute importante, le recensement. Le roi David veut compter ses forces vives et compter tous les soldats de son royaume. Ça va mettre pas mal de temps, 9 mois, quelque chose comme ça, pour faire ce recensement. Un de ses généraux principaux est contre. Parce qu'il lui rappelle, donc il a été averti, il lui rappelle que Israël ne doit pas compter d'abord sur les forces humaines, mais sur la force de Dieu, sur la force de Yahvé. Souvenons-nous l'exemple de Gédéon, n'est-ce pas, qui élimine au fur et à mesure les soldats pour en garder qu'une poignée, pour montrer que la victoire n'est pas donnée par le nombre, mais elle est donnée par le Seigneur. Malheureusement, donc, David veut compter sur ses propres forces en cette occurrence, et il dénombre plus d'un million, d'ailleurs, de soldats disponibles. Alors, attention, entre parenthèses, il faut toujours être prudent avec ce genre de chiffres dans la Sainte Écriture, parce que c'est une des choses qui a pu le plus être altérée. Au cours des transmissions du texte sacré, les nombres peuvent varier. Mais il reste quand même que certainement le roi David avait à sa disposition une armée conséquente, et c'est pour cette raison d'ailleurs que par la suite son fils Salomon pourra régner de manière tout à fait sereine. Mais c'était une faute parce qu'il a plus compté sur ses forces humaines que sur Dieu. Et donc, là encore, il sera puni. Et Dieu lui donne le choix. Tu as le choix entre 7 années de famine, 3 mois de fuite devant l'ennemi. Ah, t'as voulu compter tes armées, eh bien, tes armées vont être en déroute. Ou bien 3 jours de peste dans le pays. Donc la pénitence, on va dire, de la famine qui est due aux conditions météorologiques en particulier, ou à d'autres conditions, hein, il peut y avoir des maladies, des bestioles, tout ça, donc des conditions temporelles. Il y a évidemment donc la fuite devant les ennemis, donc les ennemis extérieurs. Donc le roi David, il préfère que ça dure le moins longtemps possible et que cette punition vienne de Dieu lui-même, parce qu'il estime que la peste, eh bien, est un châtiment divin. 3 jours de peste donc dans le pays et ça a fait de très nombreux morts. Donc le roi David, on voit aussi l'influence du roi sur son peuple, sur son pays, et quand il pêche, le roi, et surtout par rapport à des choses comme ça, tout le pays va s'en ressentir. C'est la responsabilité du chef. Là encore, c'est une leçon pour les chefs de famille. L'exemplarité est importante. Les chefs de famille, époux, épouse, père et mère, eh bien, sont aussi responsables quand ils pêchent et il y a des conséquences. C'est tout à fait logique. Par conséquent, il faut veiller aussi à être exemplaire. Donc voilà les péchés principaux du roi David. À chaque fois, ce qui apparaît le plus, c'est cet esprit de pénitence et la contradiction par rapport à l'attitude du roi Saül. Il réagit convenablement parce que fondamentalement, David, il a une vertu. Cette vertu, c'est l'humilité. Il a des gros défauts, l'impureté, on le voit, un côté, eh bien, de compter sur ses propres forces, au niveau politique, au niveau militaire, mais, fondamentalement, il a l'humilité qui lui permet de reconnaître ses fautes, de les regretter et de les réparer, c'est-à-dire d'accepter, dans ce cas-là, les pénitences de Dieu. Pénitence de Dieu, on va le voir aussi par rapport, troisième point, l'attitude du roi David. Alors c'est vrai qu'on est un peu long, mais étant donné que pour peut-être beaucoup d'entre vous, malheureusement, ce sont des choses que vous ne connaissez pas, que vous n'étudiez pas, que vous ne méditez pas, malheureusement, qui ne vont pas se trouver souvent directement dans nos missels. Il y a une partie de ces histoires, notamment dans le carême, dans les lectures. Donc c'est important d'insister aussi, de profiter de ces occasions pour parler de ces beaux exemples ou de ces mauvais exemples qui sont des leçons pour nous. L'attitude de David par rapport à ses ennemis est aussi une attitude d'humilité. Nous l'avons vu par rapport à Saül, David a tous les droits pour réclamer la royauté et pour gouverner Israël. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas pour diverses raisons. Lui, il dit que c'est parce qu'il ne veut pas s'opposer à celui qui a été oint par Dieu, même si lui l'a été et que l'autre a été rejeté. Évidemment, derrière cette humilité, il y a aussi la responsabilité de ne pas mettre le royaume à feu et à sang par une guerre intestine, alors qu'il y a déjà des ennemis extérieurs. Mais ce que nous voyons, c'est l'attitude de David, qui est une attitude humble. Il n'y a pas de haine de ses ennemis. Il ne cherche pas la vengeance. À chaque fois qu'il a l'occasion de tuer Saül, il ne le fait pas. Il réprimande même les gardes du corps de Saül de n'être pas de bons gardes du corps. Donc il avertit Saül d'améliorer sa sécurité rapprochée, comme on dirait aujourd'hui. Et quand Saül meurt, il ne s'en réjouit pas, bien au contraire, il s'attriste avec ce merveilleux cantique « Montes Gelboe, necros, necluvia, venian supervos ». Autre, et là c'est lui qui a à subir la révolte de son propre fils, Absalom. Et oui, parce que il n'a pas puni Amon de son grave péché contre sa sœur, demi-sœur, Tamar. Il a laissé pourrir la situation et en plus il a puni de manière certainement excessive Absalom par un exil de 3 ans. Eh bien, Absalom va, avec l'aide de généraux, s'attribuer le pouvoir. Il crée donc, Absalom, une guerre civile en se proclamant roi. David est quand même responsable de cette situation, parce qu'il n'a pas agi convenablement. Est-ce que David va chercher à écraser la rébellion ? Ça aurait été trop dur parce que c'est son propre fils et ça aurait mis trop le royaume à feu et à sang. Par humilité, David va se mettre en retrait, tout en étant protégé par une armée conséquente. Et quand viendra le moment de l'affrontement, il ne va pas chercher à éviter ce moment. Son fils Absalom va trouver la mort tragiquement, ses cheveux vont s'accrocher à un arbre, et comme quoi avoir les cheveux courts c'est pas si mal, surtout quand on est guerrier, et donc il va mourir. Est-ce que David se réjouit de cette mort? Là encore, pas du tout. Bien au contraire, et là aussi, on a un des passages de la Sainte Écriture, de l'Ancien Testament, des plus magnifiques, avec cette lamentation dans laquelle David pleure en disant « mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place ?» Et là, on a David qui est vraiment un type, c'est-à-dire une image du Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ. Les hommes sont des rebelles vis-à-vis de Dieu, nous en faisons partie par nos péchés, nous en avons fait partie. C'est nous qui méritons de mourir, qui méritons la pénitence, de même qu'Absalom a péché, parce que il n'aurait pas dû, malgré les manquements et l'exagération de son père, sa punition, ça ne justifiait en rien cette attitude de mettre ou de chercher à mettre à feu et à sang le royaume, de se déclarer roi de façon autonome de cette manière et de se croire plus compétent que son père en la matière. Donc il y a bien un péché de ce fils Absalom et vu la gravité de cette faute méritait certainement la mort parce que la rébellion est une des fautes les plus graves dans la société, surtout quand on fomente une guerre civile. Pourtant le roi David se lamente en disant « Que ne suis-je mort à ta place ?» Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, est vraiment mort à notre place. C'est nous qui méritions la mort, mais c'est lui qui est mort pour nous, comme nous le rappelle Saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui. Nous sommes baptisés dans la mort du Christ, et donc il faut rester conforme à cette réalité. Donc voilà aussi le bel exemple du roi David. Jamais d'esprit de vengeance, même par rapport à ceux qui lui font du mal et gravement du mal. Il ne cherche pas lui-même à faire du mal, il cherche à minimiser. Il se défend autant qu'il est en son pouvoir. Il fuit devant l'ennemi. Quand l'affrontement est inévitable, il ne dédaigne pas cet affrontement. Mais il ne le cherche pas. Et quand son ennemi, finalement, est vaincu, il ne s'en réjouit pas. C'est là aussi véritablement un bel exemple et un exemple quasiment de christianisme dans l'amour des ennemis que nous verrons resplendir en notre Seigneur Jésus-Christ, bien entendu, et dans tous les martyrs qui systématiquement priaient pour leurs persécuteurs et qui jamais n'avaient une parole de vengeance par rapport à leurs ennemis, par rapport à leurs persécuteurs. Là aussi, nous avons beaucoup de leçons certainement à prendre du roi David. David finira par mourir plus ou moins vers l'âge de 70 ans. Il aura vécu et régné pendant 40 ans, 7 ans à Hébron et symboliquement 33 ans à Jérusalem. Le jour de sa mort, il fait venir son fils Salomon et il s'adresse à lui et aux personnes présentes en lui disant « Me voici prêt d'entrer dans la voie de toute la terre », c'est-à-dire de mourir. « Fortifiez-vous et soyez un homme. » Observez, donc qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? C'est pas avoir des gros muscles, une grande barbe et compagnie. C'est d'observer les commandements du Seigneur votre Dieu. Marchez dans ses voies. Gardez ses cérémonies, ses préceptes, ses ordonnances, ses lois, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, afin que vous vous conduisiez sagement en tout ce que vous ferez et de quelque côté que vous vous tourniez. Donc, observez les commandements du Seigneur, marchez dans ses voies, gardez ses cérémonies, ses préceptes, ses ordonnances, ses lois. Donc là, c'est une insistance sur l'obéissance aux lois de Dieu. Afin que vous vous conduisiez sagement. Comment se conduire sagement ? Il n'y a pas à se poser 36 questions. En observant les commandements de Yahvé, ses préceptes, ses lois, ses ordonnances dans les différents domaines, directement ou indirectement, notamment que ce soit par l'intermédiaire de l'Église. C'est ça, se conduire sagement. Ceux qui cherchent leur sagesse dans leur propre intelligence ou dans leurs propres interprétations des choses, malheureusement, ils risquent bien de se fourvoyer. D'ailleurs, comme le rappelle l'éminent théologien qui était Cachetan à propos de la question de la trop fameuse épiclie. Et alors, le Seigneur réalisera la parole qu'il m'a donnée lorsqu'il m'a dit que vos enfants prennent garde à leur voix et prennent garde à leur voix et s'ils marchent devant moi dans la vérité de tout leur cœur et de toute leur âme, vous aurez toujours un successeur sur le trône d'Israël. Ce qu'ils ne feront pas, bien sûr, donc ils n'auront pas toujours un successeur sur le trône d'Israël. Et maintenant, c'est game over, comme on dirait aujourd'hui, bien entendu, puisque de toute manière, le successeur éternel n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ, qui fonde le nouveau royaume d'Israël, c'est-à-dire la Sainte Église. Donc, le vœu de ce que dit Dieu à David, c'est effectivement réalisé et se réalise. Donc voilà le testament qui est donné, l'insistance sur les commandements de Dieu. Le roi David a été un exemple d'observance et parfois d'inobservance, de péché, ce qui rend cet exemple très intéressant. L'exemple de ce saint, puisque on peut parler du saint roi David, il meurt dans ses bonnes conditions et dans sa vie, il est un exemple d'action bonne, de vertu, comme je vous l'ai dit, de religion, de culte de Dieu, d'humilité en particulier, d'amour même des ennemis, de pardon, de volonté d'éviter les morts, les guerres civiles, et en même temps un exemple de pénitence quand il a pu pécher, quand il a pu s'éloigner de la voie de Dieu. Donc, revenons nous aussi à ces exemples. Je vous le rappelle souvent de lire les exemples des saints. Je vous rappelle souvent de lire aussi la Sainte Écriture, d'ailleurs principalement le Nouveau Testament, évidemment, qui est la vie de notre Seigneur et les enseignements de notre Seigneur. mais également l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, le christianisme est déjà présent, parce que la véritable religion juive, même de l'Ancien Testament, est une préparation au christianisme. Même s'il y a des choses qui sont plus lâches que dans le christianisme, on a vu pour la question la morale matrimoniale, du mariage, même s'il y a des choses qui sont plus dures que dans le christianisme, notamment donc par rapport à des pénitences graves, et Dieu punissait facilement de mort, n'est-ce pas, directement, de façon miraculeuse. On n'a plus ces éléments-là, mais les éléments principaux demeurent, et donc nous devons prendre les exemples, et notamment celui du roi David, l'exemple de sa religion, l'exemple de son humilité, l'exemple de son amour des ennemis, de son pardon des ennemis, l'exemple surtout magnifique de ses pénitences tout à fait adaptées aux chrétiens, de savoir reconnaître ses fautes, de savoir regretter ses fautes, de savoir réparer ses fautes le cas échéant et corriger son attitude par la suite, ce que le roi David a fait en persévérant jusqu'à la fin dans cette attitude. Donc demandons-lui de nous aider à prendre conscience de ces réalités et de les vivre au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.